Ok, ce soir, on continue notre série sur la Genèse avec l'histoire de Noé et du déluge, des chapitres 6 à 8. Moïse est généralement considéré comme l'auteur de livre, des premiers 5 livres de la Bible, mais on sait que peut-être Moïse n'était pas juste derrière, il ne se cachait pas juste derrière une buisson d'ardente dans le jardin d'Éden, il n'était pas là. Il ne se cachait pas dans l'arche avec Noé et les autres de sa famille. Il n'était pas là. Donc Moïse a probablement utilisé différentes sources écrites et aussi orales quand il a écrit ses livres, Genèse jusqu'à Deutéronome. La plupart des érudits conservateurs aussi s'accordent que ce n'est pas juste une fable. C'est des choses que peut-être vous avez étudiées dans le lycée, n'est-ce pas? Ce n'est pas une fable, ce n'est pas une métaphore, c'est une narrative historique. C'est quelque chose qui est réellement passé. Il existe aussi des récits extra-bibliques. Je pense que c'était Georges qui a parlé sur l'aspect de Gilgamesh. C'était un historique écrit qui a expliqué un peu plus dans cette époque qu'il y avait une inondation, il y avait un déluge. Donc ça soutient un peu cet aspect qu'il y avait quelque chose qui s'est passé dans cette époque-là. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de preuves archéologiques ni géologiques qui pourraient expliquer qu'il y avait ce déluge global. Il n'y avait pas... C'est un peu comme Christophe Colomb quand il a exploré les limites de la carte un peu jusqu'à la fin du monde. On n'a pas cette explication aujourd'hui, même pour un déluge mondial comme Noé peut-être a bien compris. Mais de plus, ben, je ne sais pas, mais il me semble qu'on n'a pas encore trouvé l'arche de Noé. Ben, quand tu visites Israël ou quand tu visites Italie, tu passes par un truc historique, touriste, et tu dis, ah oui, ça, c'était dans la Bible, on voit les églises en Turquie. Ben, l'arche de Noé n'existe pas, sauf, voilà l'arche, c'est 2 heures de chez moi au Kentucky. C'est vrai, c'est les Américains, c'est pas une blague, c'est l'arche. Mais ça, là, n'implique pas qu'il n'y avait pas un déluge. Ça n'implique pas que peut-être dans l'avenir, on va trouver plus en plus d'évidence qu'il y avait un déluge à cette époque-là. Et ça, là, rappelle toutes les choses dans la nature que, ben, en fait, on ne comprend pas. Et même les scientifiques ne comprennent pas. Moi, je pense de ces oiseaux-là, les colibris. Et quand je visite ma mère et mes parents au Kentucky, je vois ces colibris qui viennent d'arriver dans le jardin. C'est des petits oiseaux, même pas 4 grammes, qui fait un trajet d'Amérique du Sud jusqu'à plusieurs parties des États-Unis. 2000 kilomètres. Souvent, ils prennent un non-stop, 800 kilomètres, où ils ont traversé le golfe du Mexique. Je viens du golfe du Mexique, quand ils ont traversé. Et je ne sais pas comment, et les scientifiques ne comprennent pas comment ces petits oiseaux arrivent au Kentucky. J'aime bien le film Dan in Real Life, et il y a une ligne, il dit « Prévoir d'être surpris ». Prévoir d'être surpris. Et ce soir, j'espère que vous pouvez prévoir d'être surpris et peut-être découvrir quelque chose que vous n'avez jamais entendu sur le déluge et sur les choses qu'on va expliquer sur l'histoire de Noé et du déluge. Je pense, c'est pourquoi on est dans le livre de Genèse, parce que je pense le livre de Genèse, ça nous donne une image de qui est notre Dieu. Ça nous donne une image de qu'est-ce qu'on peut faire dans l'Église et comment on peut naviguer toutes ces vagues de la culture. Comment on peut avoir une relation avec notre Dieu et comment on peut vraiment vivre est d'Éden. Ça, c'est les choses qu'on va attendre ce soir. Donc, voici l'histoire de Noé. Noé était le père de 3 fils, Shem et Japhet. Parmi les hommes de son époque, Noé était un homme juste. Il a trouvé la grâce de Dieu dans ses yeux et il a fait ce qui plaît à Dieu. Il suit le chemin de Dieu. Mais aux yeux de Dieu, les habitants de la terre sont pourris. Le monde est rempli de violence. Dieu regarde la terre et voit qu'il est pourri. Et en effet, tous les habitants sur la terre conduisent très, très mal. Alors Dieu dit à Noé, j'ai décidé d'en finir avec les humains. Le monde est rempli de violence à cause de eux. Je vais donc les détruire avec la terre. Construis pour toi une sorte de grand bateau en bois solide. À l'intérieur, tu le diviseras en plusieurs parties, trois étages. Tu le couvriras de goudron à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Et voici comment tu fais ce bateau. Il devra avoir 150 mètres de longueur, à peu près 25 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur. Tu le couvriras d'un toit et tu laisseras à peu près 50 cm entre le toit et le côté du bateau. Et n'oublie pas, tu mettras la porte du bateau sur le côté et tu feras dans l'intérieur trois étages. Et moi, je vais faire venir sur la terre une grande inondation. L'eau fera mourir tout ce qui vit sous le ciel. Tout ce qui se trouve sur la terre sera détruit. Mais je vais faire alliance avec toi, Noé. Tu entreras dans le bateau, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Tu devras faire entrer aussi dans le bateau un couple de chaque espèce vivante. Un mâle, un femelle, pour le garder en vie avec toi. Deux animaux de chaque espèce, oiseaux, grands animaux, les petites bêtes, viendront avec toi pour rester en vie. Et toi, prends toutes sortes de nourriture, mets-la de la côté, ainsi vous aurez ce qu'il fait pour manger, eux et toi. Dans 7 jours, je vais faire tomber la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Je vais faire disparaître la terre de tous les êtres que j'ai faits. Noé obéit. Noé fait tout ce que le Seigneur lui a commandé. Noé a 600 ans. C'est un jeune homme. Noé a 600 ans quand la grande inondation arrive sur la terre. Il entre dans le bateau avec ses fils, ses femmes et la femme de ses fils pour fuir l'inondation. Tous les animaux viennent auprès de Noé dans le bateau. Ils sont deux par deux, mâles et femelles, comme Dieu l'a commandé de Noé. Au bout de 7 jours, l'eau de grande inondation couvre toute la terre. Toutes les sources de l'océan immense situées sous la terre jaillissent et les fenêtres du ciel s'ouvrent toutes grandes. La pluie tombe sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. L'eau monte, elle se lève du bateau et celui se tient sur l'eau au-dessus de la terre. L'eau monte de plus en plus et le bateau flotte sur l'eau. L'eau continue à monter au-dessus de la terre et elle couvre toutes les hautes montagnes. Tous les hauts montagnes qui sont sous le ciel. L'eau monte de 7 mètres au-dessus de la montagne et elle la couvre toute. Il reste seulement Noé et ceux qui sont avec lui dans le bateau. L'eau monte au-dessus de la terre pendant 150 jours. Mais Dieu se souvient de Noé. Mais Dieu se souvient de Noé. De toutes les bêtes et tous les animaux qui sont avec lui dans le bateau. Dieu fait souffler un vent sur la terre. Et l'eau commence à baisser. Les sources d'eau sur la terre ne coulent plus et les fenêtres du ciel ferment. La pluie s'arrête et l'eau quitte la terre, petite à petite à petite. Le 7e mois, le 17e jour du mois, le bateau se pose sur la montagne de la Ararat. L'eau baisse jusqu'au 10e mois, et le premier jour de ce mois, on voit apparaître le sommet de montagne. Noé avait fait une fenêtre dans le bateau, et au bout de 40 jours, il ouvre la fenêtre et il sort ce corbeau dehors. Celui-ci sort, s'en va et revient plusieurs fois. Plusieurs fois, il attend que l'eau cesse sur la terre. Puis Noé envoie un colombe dehors. Il veut voir si l'eau a baissé, mais le colombe ne trouve pas un endroit sèche par endroit tu posais ses pattes, et l'eau couvre encore toute la terre. Alors elle revient vers le bateau auprès de Noé. Noé tend la main, il prend le colombe et le fait rentrer dans le bateau, et Noé entend encore. Il entend encore sept jours. Puis il renvoie de nouveau le colombe dehors. Vers le soir, elle revient auprès de Noé, et dans son bec, elle tient une jeune tige d'olivier. Ainsi, Noé sait que l'eau a baissé sur la terre. Il entend encore sept jours, et il envoie le colombe dehors, mais elle ne vient plus. Quand Noé a 600 ans, à peu près un an, le premier jour du premier mois, il n'y a plus d'eau sur la terre. Noé enlevé à tout le toit du bateau. Il regarde dehors, la surface de la terre est sèche. Le 12e mois, le 27e jour de ce mois, la terre est complètement sèche. Dieu dit à Noé, sors du bateau, toi, ta femme, tes fils et la femme de tes fils. Fais sortir aussi toutes les espèces d'animaux qui sont avec toi, tous les oiseaux, tous les grands animaux, toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol, qui remplissent la terre, qui fassent de petites et deviennent nombreux. Alors Noé sort avec ses fils, sa femme et la femme de ses fils, tous les animaux, toutes les petites bêtes, tous les oiseaux, tout ce qui se déplace sur le sol, sort du bateau par famille. Noé construit un hôtel à ce moment-là. Noé construit un hôtel pour le Seigneur. Parmi les grands animaux et parmi les oiseaux qui sont purs, il prend une bête de chaque espèce. Puis il les brûle entièrement sur l'hôtel en sacrifice pour le Seigneur. Le Seigneur respire la bonne odeur de ce sacrifice et il dit dans son cœur, maintenant, je ne maudirai plus de sol à cause des humains. C'est vrai, leur cœur désire faire le mal de leur jeunesse. Mais je ne détruirai plus tout ce qui est vivant, comme je viens de le faire. Tant que la terre durera, on sèmera et on récoltera. Il fera froid et il fera chaud. Il y aura la mauvaise saison, il y aura la belle saison. Il fera jour, il fera nuit, ce sera toujours ainsi. Et voilà l'histoire de Noé. J'ai besoin un peu de l'eau après ça. Donc voilà l'histoire de Noé. L'histoire de Noé et de la Luge nous donne vraiment cette image de la justice de Dieu. Et ça, ce qu'on voudrait voir ce soir. La justice de Dieu. Le Créateur, juge parfait et souverain dans ce monde, a sorti ses registres. Ben, je pense qu'on a des comptables ici ce soir. Mais il sort ses registres de justice et il audite la vie sur la terre. Puis Dieu a jugé le mal par le déluge et il a racheté Noé afin de réconcilier le bien pour ses desseins éternels. Donc le premier point ce soir, on voit un Dieu juste contre le mal par son jugement. Un Dieu juste. Le texte ne dit pas que Dieu était en colère et c'est comme un film de Percy Jackson où il lance les éclairs du ciel pour tuer tout le monde. Ça, c'est pas ce qu'on voit dans le texte. Mais aussi, il ne faut pas tomber dans un piège où on voit ce mot « regret » et on pense que ben, peut-être ce week-end, tu regrettes que tu as acheté cette robe ou cette chemise. Ou peut-être tu as un regret que tu as fait une bêtise quand tu étais à l'université. Ça, c'est des regrets, comme on comprend. Mais ce n'est pas le mot ici, dans l'Ancien Testament. Cela ne veut pas dire que Dieu était surpris que, oh mince, ils ont fait de mal. Oh non, qu'est-ce que je dois faire? Ce n'est pas l'image de le Dieu ici. Et ce type d'interprétation peut conduire où on peut limiter notre Dieu, limiter son connaissance, limiter son pouvoir dans notre image en tant qu'humain. Mais ce n'est pas une vision biblique de notre Dieu. Dieu est attristé par notre péché. Dieu est attristé par le mal qu'il voit. Mais la traduction de ce mot en hébreu dans l'Ancien Testament peut être mieux comprendre si on regarde sur les termes comptables. En comptabilité, Sylvain est là. Est-ce qu'il y a d'autres comptables? Ah oui, je vois Fanny. OK. On a des comptables, n'est-ce pas? Et on a des livrets. Et qu'est-ce qui se passe avec les livrets? On a des choses qui entrent, on a des choses qui sortent. Oui? OK. Ces livrets, on cherche que les livrets sont équilibrés. Ah oui, je vois des autres comptables aussi. OK. Le débit égale les crédits. Si les livres ne sont pas équilibrés, il faut faire un ajustement. Il faut faire ajouter une autre transaction. Chaque transaction nécessite d'être correspondante avec une autre chose, avec une autre transaction, pour que ce livre concile à la fin du mois ou la fin de l'année. Ça, c'est l'idée de ce mot-là. Donc, lorsque on regarde l'histoire de Deluge, on voit que Dieu, dans sa tristesse, face à notre péché, audite le compte sur le monde avec l'intention de rétablir l'équilibre sur la terre et sur sa création par sa justice. Aussi, on voit qu'on a un Dieu contre le mal. Ces versets montrent clairement pourquoi Dieu est ici attristé. On voit un peu la description de qu'est-ce qui se passe dans chapitre 6, avant et pendant. Avant, on voit un peu plus qu'est-ce qui se passe avec les anges, mais aussi en versets 11 à 13, décrivent un peu la dépravation de toute l'humanité. Il fait mal partout. Il y a des injustices, il y a des violences, il y a des contextes. Dans notre contexte international, national, il y a des injustices sociales, il y a des choses psychologiques. Ça, c'est le mot qui explique la dépravation qui existe sur la terre à cette époque-là. Il est décrit que la corruption et le péché du monde avaient atteint un niveau élevé qu'on n'a jamais vu, on n'a jamais vécu, et pénétré tous les aspects de la civilisation. Et lorsque le texte précise tout le monde, on peut croire qu'il parle de tout le monde. Tout le monde était corrompu. Et cela inclut toute l'humanité qui était là. Et ça aussi compris Noé et sa famille. Verset 2 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 5. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Ça parle un peu de la chose qui se passe avant le déluge. Mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme, là où règnent les ténèbres pour qu'ils soient gardés en vue du jugement. Il n'est pas épargné non plus l'ancien monde, bien qu'il ait sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde impie. Le déluge a été catastrophique. C'est difficile de comprendre la catastrophe qui s'est passée pendant ce déluge. Mais aussi, je trouve que c'est difficile de comprendre les dépravations qui ont existé à ce moment-là, avec les anges et les humains, avec toutes ces choses en rébellion contre notre Dieu. C'était si mal. Mais aussi, on a Dieu juste contre le mal par son jugement. Et on voit dans le texte souvent cet aspect de 40 jours. 40 jours dans la Bible. Et 40 jours dans la Bible, c'est souvent... C'est avec un test, c'est avec une épreuve, c'est avec une préparation de quelque chose. Et dans l'histoire de Deluge, on voit aussi 40 jours. Ça veut dire que c'est un jugement pour le mal, mais aussi c'est une préparation pour Noé et la famille et pour le monde. On voit 40 jours souvent dans la Bible avec Moïse sur le mont Sinaï. Il était là pendant 40 jours. On voit les espions israélites, ils ont passé 40 jours, 40 nuits. Le voyage d'Israélite dans le désert, c'était pour 40 ans. Les tentations de Jésus dans le désert, c'était pour 40 jours, 40 nuits. Et aussi les apparitions de Jésus après son résurrection, c'était pour 40 jours. Donc, il y a quelque chose qui compte avec 40, le chiffre de 40. Et je pense et je crois que la chose que Dieu était en train de faire, c'est de retourner à Genèse 1. Au commencement, Dieu crie le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. C'est ce qui se passe avec le déluge. L'Éternel Dieu façonne l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffle un souffle de vie dans ses narines. C'est le moment qu'il donne la vie pour l'homme. Et la même façon qu'il est en train de recréer, restaurer le monde. Dans le Nouveau Testament, il est indiqué dans les évangiles de Matthieu et Luc, Jésus part du déluge quand il part de le jugement qui viendra. Il part de ces personnes-là, en Genèse 6, qui ne connaissent pas le moment précis quand le déluge va arriver. Et il utilise ça pour l'événement, pour l'avenir, quand Jésus retourne ici, pour le jugement final sur la création. De Pierre décrit également les méchants et leur jugement futur en référence à la création du déluge. De fait, il veut ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'un terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. En attendant son retour, de nombreux membres de l'Église souffrant, ça va être difficile, on va vraiment expérimenter la persécution, mais sa grâce surpasse toutes les épreuves que peut-être on va expérimenter dans l'avenir. Sa grâce est plus grande, et ça, c'est quelque chose qu'on va voir même avec le déluge. Le même mot qui a créé ce monde, le même mot qui a envoyé le déluge, rendra un jour son jugement pour nous, pour toute l'humanité. Dieu est patient. Et ça, ce qu'on voit dans ces chapitres, que Dieu est patient avec sa justice. Mais il est patient parce qu'il voudrait voir chaque tribu, chaque langue qui parle, qui va chanter avec nous au ciel pour adorer et glorifier notre Dieu. Parce qu'on a Dieu juste et contre le mal par son jugement, mais avec une patience. Mais le deuxième point, on a Dieu de grâce pour le juste par sa rédemption. Un Dieu de grâce pour le juste par sa rédemption. On voit qu'il y a un Dieu de grâce. Noé n'a pas mérité le salut de Dieu. Si Noé y compris dans cet aspect que tout le monde était corrompu, ça veut dire que Moïse était inclus dans cet aspect-là. Lui et sa famille étaient aussi coupables comme tout le reste du monde. Noé a survécu uniquement grâce à les choses qui se passaient à la faveur non méritée de Dieu dans les yeux de l'Éternel. Et ils ont vu Noé comme bon et juste. Noé n'était pas parfait, et Sylvain va expliquer un peu plus dans le prochain chapitre, mais ce n'est pas un homme parfait. Mais Dieu détermine à la fois qui est mauvais et qui est juste. Mais Noé, qu'est-ce que Noé a fait? Noé a répondu par la foi, par l'appel de Dieu dans sa vie, avec une crainte du Seigneur. Le fruit et l'obéissance dans la vie qu'on voit en Noé, c'est vraiment un résultat de la transformation qui se passe dans la vie de le cœur de Noé et sa relation avec Dieu. La grâce de Dieu n'est pas seulement juste la salut, mais aussi c'est la grâce qui nous donne la façon où on peut agir avec la parole de Dieu et traverser des situations difficiles à grâce à la parole que Dieu partage avec nous, à grâce à les instructions qu'il partage avec nous. Donc Noé a construit un bateau basé sur les instructions que Dieu a partagées, que les instructions que Dieu a données. Et il me semble que dans l'économie de Dieu, souvent quand on parle de la bénédiction de Dieu, quand on parle de l'épanouissement de Dieu, c'est par les instructions, c'est par la relation avec Dieu, c'est pas par l'argent, mais c'est avec l'aspect de notre relation avec notre Dieu et sa présence. Hébreux chapitre 11, c'est par la foi que Noé avertit des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse à construire une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. On a un Dieu de grâce pour les justes. Noé avait un cœur qui était aussi pécheur. Il était aussi coupable, mais il a marché avec le Seigneur. Il marchait avec le Seigneur, avait une foi avec lui, et il a répondu par l'obéissance, malgré les choses qui étaient inconnues. C'est un homme juste et intègre, verset 9. C'est un homme qui marchait avec Dieu. Verset 13, alors Dieu dit à Noé, et verset 18, Dieu établit une alliance avec Noé. Donc il y a toujours cette relation, Dieu part, Noé obéit, Dieu part, Noé obéit, Dieu établit une alliance, Noé obéit. Donc il y avait toujours cette relation entre Noé et Dieu et l'Éternel. Et Noé, verset 5, chapitre 7, Noé se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Donc il y a vraiment cet aspect d'obéissance qu'on voit dans la vie de Noé. Et à cause de ça, à grâce de ça, on voit qu'il y avait des bénédictions pour la famille de Noé et aussi pour la famille de ses fils et leur famille. Nos vies et nos décisions comptent. Nos vies et nos décisions comptent pour notre famille, mais aussi pour notre communauté, pour notre entreprise, pour notre société. Et il semble que le récit de la Luge nous rappelle aussi que toute la création est importante. Dieu a sauvé Noé et sa famille, mais il a aussi sauvé les animaux. Et ces animaux, c'était un cadeau aussi de Dieu. Certains pensent que peut-être Noé a pris 75, peut-être 120 ans de construire le bateau, construire l'arche. Pourriez-vous imaginer 100 ans dans un projet? J'imagine le météo, c'était un peu sec. C'était un peu difficile de voir tout ce qui se passe autour de vous. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passait. Mais quand même, il a travaillé beaucoup de temps pour un projet qu'il ne voit pas tout de suite. Et je pense que dans notre monde ici, ça c'est que toujours les choses qui sont difficiles, on voudrait voir un résultat tout de suite. On voudrait grandir avec le Seigneur tout de suite. On veut bien entendre la voix de Dieu, la peur de Dieu, tout de suite. Après 100 ans, peut-être plus, Noé a construit le bateau, après jour, après jour, après jour de travail. Une partie de grâce, ce n'est pas que le salut, mais une partie de la grâce que Dieu nous a donnée, c'est la persévérance. Et ça, c'est des choses qu'on voit dans la vie de Noé. C'est un homme qui a persévéré. Il a persévéré et ça aussi sa part de la grâce que Dieu lui a donnée. Mais en plus, qu'est-ce qui se passait? Il est entré dans l'arche 7 jours avant que l'inondation a commencé. Avec sa famille, avec les animaux. La grâce de Dieu non seulement ouvre nos cœurs, mais il nous rend et nous rend justes. Mais la grâce aussi, c'est une façon de nous transformer par la persévérance. Et la dernière chose, c'est par sa rédemption. Ce qu'on voit dans l'histoire, c'est la justice de Dieu restaure et renouvelle la création pour accomplir les objectifs de Dieu, pour accomplir les choses que Dieu a dans son plan, dans son timing. Et ce qu'on voit ici avec notre Dieu, ce n'est pas juste un Dieu loin, mais c'est un Dieu qui travaille dans la nature, c'est un Dieu qui travaille avec les personnes, avec les hommes et les femmes, aussi c'est un Dieu qui travaille dans l'histoire. Pour les gens qui ont entendu cette histoire la première fois, pour eux c'est normal. Un Dieu chrétien, c'est un Dieu qui travaille ici, aujourd'hui. Pas si loin. Mais la rédemption de Dieu restaure et renouvelle la vie. Ça, c'est une partie de la rédemption. La grâce de Dieu aussi, ça parle et ça nous aide à même à donner les choses dans l'abondance. On voit les choses qui se passent quand Noé est sorti de l'arche. Noé est sorti de l'arche avec que les animaux qui étaient dans le bateau. Et qu'est-ce qu'il a fait avec l'autel? Il a donné des animaux comme holocauste sur l'autel. C'est que les animaux qui existent. Et même avec ça, avec cette scarcité, il a pris, il a donné à Dieu. Même dans la scarcité. Parce que si on croit que Dieu est souverain et si Dieu est notre créateur, on est tous dans l'abondance. Ça, c'est des choses qu'on voit dans la vie de Noé. 1 Pierre, chapitre 3, 20, nous donne notre image finale de qu'est-ce que ça veut dire le déluge et pourquoi ça c'est important pour nous. Quand il parle de verset 20, quand il parle de huit qui était sauvé avec Noé par la patience de Dieu, et ils étaient sauvés à travers l'eau. Il y avait des gens qui est décédés à cause de l'eau, mais ici, il parle de les gens qui étaient sauvés à travers l'eau. Verset 20, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche, un petit nombre de personnes, à savoir huit, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. De la même manière, Christ a souffert une seule fois pour le péché afin de rendre juste ceux qui n'étaient pas devant Dieu, ceux qui étaient coupables. Et il a fait notre salut. Et on affiche notre salut en Christ maintenant par l'eau de baptême. La chose que Dieu a dit dans le Genèse chapitre 6, on voit verset 21, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impurité physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ, qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances, et se trouve à la droite de Dieu. Donc, avec le baptême, maintenant, le baptême, c'est pas de l'eau de chaos, c'est pas de l'eau de désordre, c'est pas de l'eau de jugement. Le baptême symbolise la rédemption de nos vies qui étaient marquées par toutes ces choses, toutes ces culpabilités, toutes ces hontes, toutes ces choses. Et maintenant, c'est un symbole de tout ce qui se passe quand on est lavé par la rédemption de notre Dieu, notre Fils Jésus-Christ, qui lave le mal par la justice de lui-même. Et on est ressorti, renouvelé, on est ressorti, régénéré, nouveau, comme création après le déluge, comme des amis justes de Dieu, dans sa résurrection. Et on utilise le mot souvent, on est réconcilié avec lui. Donc, c'est pas le lot de baptême qui nous sauve, mais cet aspect d'une bonne conscience vers lui. Et le baptême, c'est un symbole pour nous. Et c'est des choses qu'on va fêter et célébrer la semaine prochaine. La bonne nouvelle est que la bonté et la justice de Dieu sont les mêmes. Pardon. La bonne nouvelle est que la bonté et la justice de Dieu sont les mêmes qu'elles étaient dans la Genèse 1 comme dans l'Apocalypse. C'est le même aujourd'hui. Dieu ouvre le cœur, comme il a fait avec Noé. Il ouvre les portes, comme il fait avec chacun de nous, souvent. Mais aussi, il ferme le cœur. Et aussi, il ferme les portes. C'est lui qui a fermé les portes pour l'arche. Son amour persévère. Son amour et sa justice nous guident alors qu'on apprend à lâcher prise notre contrôle de notre vie. Il n'y avait pas un conducteur pour l'arche, c'était que Dieu. Il n'y avait pas quelque chose, c'était que Dieu qui a géré cette bateau? Est-ce qu'on a laissé contrôle à Dieu de prendre notre vie, de prendre le relais pour notre vie, pour diriger notre bateau, dans le bateau, dans la vie? Peut-être vous voyez des vagues dans votre vie, vous avez vécu des choses difficiles. Peut-être dans le courant de vie, c'est encore difficile, ou tu vois des choses qui se passent, ou qui va arriver dans l'avenir. Mais tu peux persévérer parce qu'on a un Dieu qui persévère avec sa foi. Et si tu crois en lui, on peut avoir cette confiance comme Noé. Mais ce n'est pas juste Noé, c'est la confiance qu'on peut trouver en Christ. Comme Christ, en effet, le salaire du péché, c'est la mort, c'est le jugement. Ce que Paul a dit en Romains chapitre 6. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. C'est le jugement que toutes ces personnes sont reçues. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est la justice. Il rend compte. Il va faire un audit de votre vie. Mal, juste, en Christ. Et le don, c'est un don. C'est gratuit. C'est pas par ton obéissance. C'est pas par les choses que tu vas faire par tes œuvres. C'est un don gratuit de Dieu par Christ. Donc ce soir, on va prendre le Saint-Saint avec cet aspect que c'est un don. C'est un don gratuit par le sang de Jésus-Christ. Si vous avez une conscience vers Dieu et ouverte à toutes les choses qu'il a fait dans ta vie, vous êtes ouverte à prendre le Saint-Saint. Si il y a des choses et quand vous faites l'audit, vous dites peut-être que ce n'est pas le moment ce soir, soyez libre. Le Saint-Saint et notre vie, c'est une partie de la grâce que Dieu nous a donnée et c'est par la grâce que Dieu peut nous transformer, par ses symboles et par la vie ici dans l'Église. Priez avec moi, s'il te plaît. Seigneur, merci pour encore ta parole qui parle. Merci pour ces deux chapitres qui est difficile de comprendre un peu avec toute la destruction et la catastrophe de le déluge. Mais Seigneur, on prie vraiment pour la justice que tu montres dans ces chapitres. Parce que tu es juste, parce que tu es un Dieu juste et tu es parfait. Et on peut avoir confiance que tu comprends mieux que nous dans nos situations aujourd'hui. Et on prie vraiment pour avoir confiance avec toi cette semaine et même ce soir. Quand on a un salut à grâce de toi, et pas par notre efficacité ou par nos œuvres, mais par le don gratuit de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.